Votre podcast Swing vous est présenté par Strixon et ses balles Z-Star, Z-Star XV et Z-Star Diamond. Victorieuse sur tous les circuits, elle performe comme vous l'exigez. Brooks Koepka, Hideki Matsuyama ou encore Shane Lowry les utilisent. Alors pourquoi pas vous? Les balles Z-Star de Strixon sont disponibles dans plus de 600 points de vente en France.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On est en direct de la Solheim Cup. On a vécu un moment de dingue. On a vu l'histoire s'écrire sous nos yeux. Je suis avec Hugo Ponce. Salut Hugo.
Salut JP.
De Journal du Golf et Sébastien Cacharberger de la Fédération Française de Golf. Salut Seb.
Salut JP.
Messieurs, on a vécu une Solheim Cup de folie. Un dimanche de dingue comme on aime. C'est ça le match play, c'est ça qu'on aime voir, c'est des retournements de situation et finalement l'équipe européenne qui l'a emporté hein, grâce à ce point, enfin qui l'a pas emporté d'ailleurs, je vois que Sébastien tu fais un signe pour m'arrêter, ils n'ont pas remporté la coupe, ils ont conservé la coupe.
Et ce qui veut dire qu'elle la garde tout simplement. Quand on est tenant du titre, si on fait un score, si on est ex aequo, j'ai eu du mal à faire cette phrase, si on est ex aequo à la fin, bah, quand on est tenant du titre, on garde la coupe.
Alors messieurs, comment vous avez vécu cette Solheim Cup? Hugo, c'était une première pour toi, hein. Tu vivais ça avec des yeux d'enfant.
Exactement, cette première fois de l'intérieur, première compétition par équipe internationale et une semaine de dingue, une semaine de rêve. Si on avait voulu avoir du suspense, un scénario à suspense, on n'aurait pas pu trouver mieux.
Voilà, t'as été gâté pour ta première, on pouvait pas faire mieux.
Le 14-14 qui se finit sur le 17.
Parce qu'on le rappelle, c'était 8-8 avant les simples d'aujourd'hui. Évidemment, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Mais finalement, la Coupe a décidé de rester en Europe. On a vu un monde de folie. Il y a eu beaucoup de monde pour supporter ces deux équipes. Et cette victoire, finalement, cette Coupe qui est conservée et cet ultime point finalement donné par Carlota Singanda, l'Espagnol, la régionale de l'étape, c'était écrit quoi.
Bah ouais, ça pouvait pas mieux se finir effectivement, il y avait un public de fou notamment pour encourager Carlota Singanda. Elle avait pas joué le tout premier match jeudi matin et après elle a enchaîné, je sais pas si c'était pour la préserver ou pas, mais en tout cas elle a été à la hauteur des attentes. Elle a un petit côté Sergio Garcia je trouve dans l'attitude et puis elle emmenait la foule avec elle, c'était assez incroyable à vivre.
Hugo, on était sur le green du 17 quand Carlota Singanda justement a rentré cet ultime putt, cet ultime point. Avant que tu réagisses, on va vous embarquer dans ce trou numéro 17 et vous faire écouter l'ambiance qu'il y avait.
Que tu vis
ouais, non, c'est super de pouvoir remporter la Coupe de Solheim pour la troisième fois et marquer l'histoire du golf.
Voilà, Hugo, on était, Sébastien, on était forcément, on était aux premières loges. C'était fou.
Ah, c'était fou, être à un mètre à peine de toutes les autres joueuses européennes qui étaient là pour attendre Carlota Singanda au 17, qui, pour ceux qui n'ont pas vu le trou numéro 17, elle réalise un coup de fer incroyable.
Ouais, un par 3.
Un par 3, il fallait absolument qu'elle s'impose. On a connu un scénario un peu dingue dans cette journée, peut-être qu'on y reviendra un peu après, mais il fallait que Singanda gagne son match contre Nelly Korda, et elle était one-up au départ de ce trou 17, un coup de fer à 60 cm du trou qui a fait exploser les milliers de spectateurs autour du green, et ses coéquipières aussi, toutes les coéquipières de l'équipe européenne qui étaient là au bord du green, on était à un mètre, et on a tremblé jusqu'au bout, puisque Nelly Korda a failli rentrer son chip quand même, il est passé très 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 proche, on l'a un peu oublié, mais elle a failli le rentrer.
On aurait pu aller au 18, et ouais. En fait c'est vraiment fabuleux que ça soit fini au 17 parce qu'il y avait une espèce d'arène autour de Spar 3 qui s'étendait jusqu'au 16, le green du 16 qui était à côté du départ du 17. Il y avait une arène pleine de monde, il y avait vraiment des dizaines de milliers de personnes, c'était incroyable. Ah, et au 18, ça aurait été beaucoup plus étroit, il y aurait eu moins de place pour le public, donc là, ça pouvait pas mieux se terminer au meilleur endroit avec un public de folie. Il y avait vraiment du bruit, moi j'ai encore les oreilles qui sifflent, c'était incroyable.
Exactement, et au moment où, Siganda rentre ce putt, les 12 joueuses qui envahissent le green, et en l'espace de 10 secondes, il y a 200 personnes sur le green, des photographes dans tous les sens, tous les caddies, tout le monde se saute dessus.
La douche de champagne.
La douche de champagne, c'est une ambiance
tous pris un peu.
Assez dingue.
Et le roi d'Espagne qui était là.
Exactement.
Le roi d'Espagne qui était là, avec un service de sécurité assez stressé.
Oui, pas très agréable de traiter avec eux, mais... On a fait le tour pour se placer de l'autre côté du green et pour envahir le green avec les joueuses. C'était un peu la cohue, c'est marrant. Bon, là, c'est le petit côté en tant que privilégié, les médias, mais on se jette tous sur le green. Et là, faut jouer
des coudes
pour être au plus près des joueuses. Moi, c'est la première fois que je vivais ça. JP, t'as un peu plus d'expérience, mais il faut le vivre une fois pour être prêt pour la deuxième. Donc, vivement la prochaine.
Ouais, c'est évidemment un peu la folie. Tout le monde s'embrasse, tout le monde se félicite, se congratule. Tout le monde, finalement, relâche la pression parce que, mine de rien, un match comme ça, Europe-États-Unis, on a senti toute la semaine une petite tension parce que forcément les deux équipes veulent gagner pour son équipe, pour sa nation et on en discutait avec les joueuses, forcément ces rencontres-là décuplent les émotions et on voit par exemple une Céline Boutier qui est d'habitude réservée, là complètement explosée quoi, c'est plus peut-être que pour ses victoires individuelles.
Bah, je pense que c'est pareil pour toutes les joueuses et tous les joueurs. Si on élargit, ils le disent tous, les parties en équipe, que ce soit d'ailleurs chez les amateurs, les gounouillou, les golfers, et évidemment à ce niveau-là, bah, c'est décuplé avec tout le public. Mais c'est des moments uniques dans leur carrière. Ils s'en souviennent toute leur vie. Gladys Nocera leur disait en début de semaine, elle a pas eu la chance de la gagner, mais pourtant c'est quand même une épreuve qui a marqué sa carrière. Et elle revenait quasiment bénévolement pour participer en tant que helper sur cette édition.
L'assistante du capitaine. Ouais.
Donc voilà, c'est des moments uniques dans une vie de golfeuse et bah, elles en profitent toutes.
Et elles ont bien raison. Et justement, Gladys Nocera, on l'a vu, hein, elle était au bord également avec cette équipe européenne au bord du 17. Et je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction à chaud. Évidemment, elle était très contente, Gladys.
Soleil, plein d'émotions encore.
Ouais, bah comme d'hab, hein, de toute façon, la Soleil, c'est toujours incroyable. Je retiens que c'est serré tout le temps le dernier jour et qu'on a eu un moment où on était plutôt sereine, j'ai trouvé. Nous, de l'extérieur, bien sûr. Et il y a eu une petite baisse de régime et puis ça se joue là. Sur le match de Carlotta, bah encore une fois, on ne peut pas espérer mieux.
Quand on voit Céline Boutier, qui, bah, malheureusement, qui n'a pas gagné un match, est-ce que ça va, mine de rien, effacer un peu ça? Il y a une frustration, même si l'équipe, elle gagne? Il y a toujours...
Je ne sais pas, faudrait lui demander, je pense.
Toi, avec un œil extérieur...
Ah oui, parce que tu es là en équipe, donc pour moi, je préfère perdre tous mes matchs et gagner en équipe que l'inverse. Donc après, chacun est différent, mais oui, je pense qu'on va faire la fête ce soir.
Bravo, en tout cas. Ça te donne envie de continuer l'aventure? En tout cas, on sent.
Bah, la Solheim, si je peux rester jusqu'à ce que je puisse plus marcher, je le ferai, ça c'est sûr.
Allez, va profiter, merci Gladys.
Voilà, cette équipe européenne, messieurs, on savoure hein, cette victoire et on peut noter quand même dans cette équipe ce qui a peut-être fait basculer la rencontre. On l'a vu à un moment, c'était Caroline Edouard. Hein. Caroline Edouard, on l'a vu, elle n'a pas joué beaucoup de matchs, elle a joué que deux matchs cette année. Le 4 balles hier après-midi, puis ce match de simple. Et Catherine Edouard,
Caroline. Sweet Caroline. Oh oh oh.
Ouais, c'est un peu notre coup de cœur hein, cette chanson entonnée partout, évidemment, toutes les supporters au départ du 1. Vous voulez qu'on l'écoute? On va le réécouter. On s'en lasse pas hein, de ce Sweet Caroline. C'est un peu, on va pas dire que c'était un peu hein, le supplément d'âme de cette équipe européenne, mais on sentait que cette équipe européenne était un peu malmenée. Il fallait absolument qu'elle gagne son match, Caroline Edouard. Elle était à égalité au 15. Elle gagne le 16 en rentrant un putt de longue distance. Elle gagne le 17. pour finalement s'imposer.
Entre un pote à nouveau.
À nouveau longue distance, incroyable. Et c'est elle qui est finalement peut-être à donner l'énergie supplémentaire à cette équipe européenne.
Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, quand on regarde toutes les parties et la tendance que ça prend, il faut absolument que Caroline Edouard remporte son match, sinon c'est perdu. On fait les calculs dans tous les sens. Le dernier match de.
On sort la calculette là à ce moment-là.
Avec Lexi, elle a énormément d'avance, le match est quasiment gagné. Et voilà, et même si les européennes derrière Stark et Siganda sont elles aussi en avance, si Edouard perd ou fait match nul, les Américaines feraient 14,5. C'était quasiment assuré. Et voilà, c'est le scénario complètement dingue. Elle est one down, départ du 16, et elle gagne 16, 17, 18.
Ouais, parce que finalement, elle gagne aussi le 18.
Deux voilà. up, du coup, facile.
Deux up, voilà. Avec encore un coup exceptionnel sur ce par 5 pris en deux. Elle finit à 6 mètres du drapeau devant le public explose. Enfin, c'était dingue. Donc elle va chercher ce point, et c'est là qu'on se rend compte que ça va sûrement pas se finir au 18. Que voilà, et derrière, c'est Siganda qui se fait rejoindre par Nelly Korda, parce que Siganda avait mené quasiment toute la partie. Elle se fait rejoindre après le 15, donc départ du 16, elle se retrouve square. Et pareil, dans l'obligation de gagner un partage, ça ne suffisait pas. Les Américaines auraient remporté cette Solheim Cup. Et effectivement, donc elle gagne le 16. Ouais, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, faut qu'on aille au 17. On court, et ça qui est génial dans ces épreuves par équipe, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ça va se finir, où ça va se finir. On pensait que ça viendrait jusqu'au 18 quand on voyait que les scores, ils étaient vraiment autour de 1-up et que ça allait peut-être tirer jusque-là. Et d'un seul coup, ça s'accélère. Il faut courir jusqu'au 17. On arrive dans cette arène monstrueuse avec des milliers de spectateurs. Siganda au départ. Le coup de fer à 60 cm.
C'était écrit. Non, mais c'était écrit que ce soit finalement l'Espagnol, la seule Espagnole de l'équipe pour la première fois que la Solheim Cup se pose ses valises en Espagne, que finalement ce soit elle qui donne le point qui permette à l'Europe de conserver la coupe. Quoi. On a l'impression que tout est écrit dans ces épreuves.
Je reviens en arrière dans ce que disait Hugo sur Caroline Edouard. C'est vrai que moi, je venais de finir la partie de Céline Boutier et j'ai croisé des gens qui m'ont demandé « ça y est, c'est fini, les États-Unis ont gagné ». Et je dis « non, pas encore, c'est pas encore fini ».
Dans un espagnol impeccable, évidemment.
Alors, j'ai dit « no hablo espagnol » et puis je l'ai fait en anglais. C'était pas beaucoup mieux, mais quand même, on s'est compris.
Oui, il y a une vraie. En plus, on l'a vu en début de semaine sur les doubles. On voyait le public qui désertait un peu le parcours au milieu de l'après-midi. Là, tout le monde est resté jusqu'à la fin pour suivre la partie. On sentait qu'il se passait quelque chose. Il fallait être là pour vivre l'histoire et on l'a vécu. Et on s'est régalé. Non, on s'est vraiment régalé. Forcément, on va parler de Céline Boutier. Dans ce podcast, Céline Boutier, qui elle était plutôt, on va dire, mitigée hein, dans ce Solheim Cup. On le rappelle, hein, 3 matchs, 3 défaites. Elle a eu beaucoup de mal aujourd'hui face à l'américaine Angel Hill.
Je corrige un peu, JP. Elle a eu du mal. Je n'en suis pas certain. Angeline a joué de manière incroyable. Elle tapait des drives monstrueux. Elle a rentré des putts dans tous les sens.
Elle est tombée sur plus forte qu'elle, tout simplement.
Voilà. Céline a plutôt bien joué aujourd'hui. Si on devait retenir une partie où c'était un peu moins bien, c'est peut-être hier en foursome avec Georgia Hall. Le premier jour, elle avait très bien joué avec Georgia Hall. Mais bon, voilà, à deux, on n'est pas maître du destin de l'équipe. Hier, peut-être un peu en dedans. Aujourd'hui, elle a joué son match et c'était assez serré. Hein. C'était square encore après. Alors attendez, je vérifie mes fiches. C'était square après 11 trous et puis one up. Non, encore square après le 15. Voilà, j'avais besoin de me remettre la partie en tête. Square au 15 et puis bon voilà, Angeline, elle rentrait des putts dans 16, tous 17. Les sens. C'était un peu frustrant en tant que Français, mais c'était impressionnant.
On l'a vu d'ailleurs, pour montrer sa puissance à Angeline, c'est ce trou numéro 14. Où c'est un trou évidemment par 4 qui est drivable avec un green mais qui est quand même bien protégé par des bunkers et un tout petit couloir pour pouvoir espérer accéder au green. Et bien Angeline, elle s'est mise à 3 mètres du drapeau quoi, sans problème.
Exactement, et évidemment, elle a rentré le putt.
Et évidemment, elle a rentré le putt, peut-on descendre, pas facile, là où Céline Boutier a été.
A juste fait birdie
en trouvant le bunker sur son premier coup. Une Solheim, évidemment, on lui a posé la question à Céline Boutier si elle était satisfaite ou pas de cette victoire, et forcément, elle retient la victoire, enfin plutôt la conservation de la Coupe de l'Europe par l'Europe, on l'écoute.
Juste rapidement, quel bilan tu vas faire cette Solheim? Il y a la victoire, tu as perdu tes 3 matchs, mais il y a la victoire au bout. Quel bilan on fait quand on perd comme ça, mais quand on gagne au bout quand même? Ça efface tout?
Je crois que le plus important, c'est qu'on garde la coupe. Donc c'est ce que je vais retenir de cette semaine.
Ouais. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été selon toi cette semaine ici, à Finca?
Je pense que c'est juste des matchs difficiles, des joueuses qui sont très fortes et parfois ça joue pas grand chose, parfois ça passe de notre côté, parfois pas.
Les émotions au soleil, c'est à part dans une carrière, c'est intense toujours.
Oui, c'est juste différent de ce qu'on a toutes les autres semaines, juste parce que c'est un tournoi par équipe et que c'est avec 11 autres joueuses, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas comparable.
Le fait que la prochaine soit déjà dans un an, c'est encore plus motivant, on a toujours hâte que ça arrive, une soleil.
Oui, c'est différent, c'est vrai que l'année prochaine, du coup, c'est vrai que ça va arriver assez vite. Mais ouais, le fait aussi avoir pu garder la coupe cette année, c'est vrai que c'est aussi motivant pour l'année prochaine, vu que forcément, clairement, les joueuses sont en forme et les joueuses européennes plus précisément.
Voilà messieurs, cette 18e Solheim Cup, riche en émotions, on le rappelle, hein, l'Europe conserve la coupe, 14-14, une édition de dingue, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a match nul entre les deux équipes. Messieurs, vos tops.
C'est aussi la première fois que l'Europe gagne ou conserve
la coupe.
Trois fois d'affilée, les États-Unis l'avaient fait deux fois, l'Europe c'était la première fois et... Il n'y a plus qu'à aller chercher la quatrième. Maintenant, ça, ce serait unique.
Ouais, ça sera aux États-Unis l'année prochaine, hein, parce que la Solheim Cup revient l'année prochaine directement pour alterner après une année sur deux avec la Ryder Cup. Vos tops, vos flops, messieurs, de cette édition
Des flops, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est quand même une super semaine. Dans les tops, niveau joueuse, petit coup de cœur pour Pedersen qui
sont 3-1 hein, le deuxième 3-1 de l'histoire
et puis qu'on a vu avec un jeu de fer hyper précis jusqu'au simple. Effectivement, elle a perdu son simple contre Lexi, mais on sent qu'elle a redonné une espèce d'impulsion positive à cette équipe européenne qui était en déroute après les foursomes du vendredi matin. Après l'autre gros coup de cœur, pour moi, qui était présent pour la première fois sur une épreuve comme ça, c'est
les costumes,
non mais c'est l'expérience spectateur au global, parce que Sébastien le disait, c'est vrai qu'on a la chance d'être en étant présent en tant que presse, d'avoir des accès un peu privilégiés, à être plus près du jeu, on peut être dans les cordes et tout ça, mais en fait on a envie d'être dans le public, c'est là que ça se passe, c'est là que l'ambiance de la compétition a lieu.
Dont un supporter américain avec un déguisement d'aigle,
votre supporter préféré,
qui vous a beaucoup plu, ouais.
Non mais voilà, tous ces groupes. Alors, de spectateurs.
On est content d'être dans le public, mais au 17 on était content d'être devant le public quand même, sinon on n'aurait rien vu.
Non mais c'est surtout des compétitions auxquelles on peut goûter et assister tous les deux ans, hein, et franchement, honnêtement, par rapport à des tournois majeurs, c'est complètement différent. On voit qu'il y a une vraie ferveur populaire. Le match play, c'est parfait pour le spectacle. On peut voir des joueurs agressifs. Enfin, c'est parfait, ce genre d'épreuve.
Oui, Hugo. Ouais, non, mais donc pour en revenir justement à ces spectateurs au niveau des tops, moi, c'est un vrai top. C'est tous les spectateurs américains. Enfin, je m'attendais pas à avoir autant de, et en l'occurrence beaucoup de spectatrices, de fans qui ont fait les 6, 7, 8 000 kilomètres parfois pour venir supporter leurs joueuses. Elles étaient là sur tous les trous, elles criaient USA, USA, USA.
C'est ça qui est beau dans ces compètes, c'est cette espèce de rivalité, rivalité qui est bon enfant entre le public. Il y avait forcément plus d'Européens, d'Espagnols, il y avait beaucoup d'Irlandais, de Suédois.
Quelques Français aussi, on entendait des Allez Céline dans la foule.
Tout à fait, mais voilà, c'est très sain, ils se charrient, il y a un peu de bruit pour l'Europe, les Américains, Américaines se débrouillent pour donner de la voix, et c'est hyper sympa. Tu comparais avec les majeurs.
Vous aimez même les déguisements de tournesol.
Et les bananes. Je
et
sais
les bananes,
pas
oui.
Si... pardon, je disais, tu comparais avec les majeurs. S'il y a un truc qu'on peut comparer, alors il y a peut-être un peu moins de monde que sur des majeurs masculins aux États-Unis, mais c'est ces bruits qu'on entend quand il y a un pote qui tombe sur
les
un
fameux
trou,
roars.
Les roars.
Les roars.
Quand on entend les hurlements à l'autre bout du parcours, on sait qu'il s'est passé quelque chose, on
alors
est intrigué.
C'est la configuration du parcours avec un peu des dénivellations, ce qui permet d'avoir à certains endroits une sorte de cuvette, donc le son reste un peu comme dans un stade, donc ça c'est vrai que ça rend le côté...
On était un peu timoré sur le parcours en début de semaine, en se disant qu'il se prêtait pas forcément à accueillir du public, à accueillir ce genre d'événement.
Ah non, parce qu'il était quand même très physique, hein. Il y a la montée du 15 là, pour remonter jusqu'au praxis, Sébastien, vous en souvenez de celle-là?
Ouais, douloureux, mais il faut l'avoir fait pour être un homme.
Non, mais le parcours était parfaitement adapté en fait pour les spectateurs quand on était sur le bord du fairway, mais c'est vrai que le petit flop qu'on a un peu entendu, et c'est pour ça que beaucoup de spectateurs partaient, en tout cas les deux premiers jours l'après-midi, c'est que c'était très compliqué de circuler. Les spectateurs ne se déplaçaient que sur les chemins de voiturettes. Et donc, il y a quelques endroits où ça crée des d'étranglement. Et on était bloqué, on pouvait être bloqué 10 minutes sans pouvoir circuler en tant que spectateur. Et voilà, ça c'était le léger flop, mais tout le reste c'était génial et j'ai hâte d'y retourner.
Ouais, en tout cas, on a hâte aussi de vivre une semaine prochaine qui s'annonce encore passionnante. On continue dans le match par équipe. Cette fois, on va aller du côté de Rome pour vivre la Ryder Cup. Alors, la Ryder Cup, on le rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Non, je rigole. Évidemment, la confrontation Europe-États-Unis, mais chez les hommes, en tout cas, ça va être une nouvelle fois passionnant.
Et pour ceux qui veulent suivre Céline Boutier, elle sera à Deauville, au Lacoste Ladies Open de France. Moi, j'y serai.
Alors, elle va au Lacoste Ladies Open de France, mais elle l'a dit, Céline, elle n'y va pas pour fêter son titre. Acquis à la Solheim Cup, enfin la coupe, conserver la coupe à la Solheim Cup, elle y va vraiment pour espérer faire une semaine solide et peut-être un peu nettoyer cette Solheim Cup en demi-teinte pour Céline Boutier en tout cas.
Et
retrouver Nelly Korda. Est-ce qu'une dernière partie Nelly Korda, Céline Boutier, ça pourrait être pas mal à Deauville?
Ouais, j'espère qu'on tout entendra suite. Des roars.
Des roars sur le parcours de Deauville. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je vous rappelle, merci d'avoir suivi cette Solheim Cup sur Journal du Golf TV, canal 187 de Freebox et 193 de Bbox. Merci aussi à Sébastien de la Fédération Française de Golf, qu'on retrouve
merci
évidemment la semaine prochaine à Deauville. Passionnant cette semaine. Est-ce qu'on va avoir du beau contenu pour notamment ce documentaire que vous préparez sur Céline Boutier pour la mi-novembre, c'est ça?
Ouais, merci pour ce petit teaser. Bah oui, on a la chance de suivre Céline en cette année qui est assez incroyable. On était à Evian avec elle, on a pu aller la voir à Dallas et à Vancouver pour un tournoi au Canada. Voilà, là, la Solheim, la semaine prochaine à Deauville, et puis on va raconter un peu son histoire et sa vie. Voilà, fin novembre, j'ai pas encore
n'en
la date
pas
exacte,
plus, n'en
mais
dites pas plus, n'en
ça
dites
va
pas
être
plus.
Bien.
On a hâte de le voir en tout cas. Ouais, en tout cas, on a super hâte de le voir. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Salut.